Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, désormais tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Ce soir, nous consacrerons donc l'essentiel de notre émission à la politique culturelle américaine, 3 ans après la victoire de Donald Trump. À cette occasion, nous reviendrons sur les singularités de cette politique publique pour les arts, depuis Roosevelt jusqu'à Donald Trump. Et nous serons pour en débattre avec 2 universitaires américaines, Joanna Vorontkovich, professeure à l'université d'Indiana aux États-Unis. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
À vos côtés, Carole Rosenstein, professeure à l'université George Mason en Virginie, qui a écrit notamment l'ouvrage Understanding Cultural Policy, Comprendre la politique culturelle. C'est chez Routledge, publié en 2018. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous serez toutes les deux traduites en direct ce soir par Xavier Combe. Et tout au long de cette émission, grâce aux archives de l'INA, nous écouterons aussi des extraits des principaux discours sur l'art par les présidents américains, de Roosevelt à Obama, en passant par Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Clinton. Beaucoup de sons et d'archives à écouter ce soir. Grégory Phillips, correspondant permanent de Radio France aux États-Unis, sera également avec nous en direct depuis Washington. Voilà pour le programme de cette émission consacrée à la politique culturelle américaine 3 ans après l'élection de Donald Trump. En première partie d'émission, dans l'actualité de la semaine, nous reviendrons avec vous, Zoé Svez, sur la nuit blanche. Hier soir, on y était. Hein.
On y était, chacun à son endroit, et pour toute la nuit.
Moi, j'étais au troisième paradis.
Eh ben, bravo.
Voilà, chacun. On parlera aussi de politique culturelle en direction des arts visuels, de microfolie, et puis des bouquets de tulipes de Jeff Koons.
Surtout le bouquet de tulipes, je crois.
Absolument. Il est tout seul. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche. L'émission est réalisée ce soir par Lionel Quentin avec en régie Cindy Le Grumelec. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux Abdelila Laloui. Car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Je le disais il y a un instant, nous y étions hier soir à la Nuit Blanche, notamment à Paris, mais ça a lieu aussi dans plusieurs villes de France et à travers le monde. Zoé Svez, la Nuit Blanche qui évolue, qui continue, elle était notamment organisée, comment dire, curatée.
Par, même si le mot n'est jamais très heureux, par Didier Fusillé.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade sur l'évolution de cette manifestation culturelle?
Alors, c'était une année à la fois particulière et pas si particulière. C'était la 18e édition de cette Nuit Blanche et c'était la dernière du mandat d'Anne Hidalgo, de ce mandat qui va se terminer. C'était aussi un moment de regarder, un bon moment pour regarder ce qu'est devenu cette Nuit Blanche. Pourquoi déjà? Parce qu'évidemment, c'est son prédécesseur Bertrand Delanoë qui l'a instauré. Donc, en fait, c'est la dernière, on va dire, ère de Delanoë Hidalgo, la dernière année de cette fameuse ère de Hidalgo. Le concept a beaucoup évolué. Il a 18 ans, il est presque majeur, comme un enfant, on pourrait le dire.
Il vient de passer son permis de conduire sur le périphérique.
Il a le droit de voter. Alors, c'était une année où Anne Hidalgo, qui avait déjà annoncé, qui avait déjà voulu en 2018 sortir la Nuit Blanche de Paris proprement et qui avait envie d'investir la question du périphérique. Alors là, on est sur une double thématique cette année. Il y avait la thématique du périphérique, on se le réapproprie. C'est pas complètement anodin quand on a quand même des candidats aux prochaines municipales comme Gaspard Ganzer par exemple qui propose d'annuler le périphérique,
il y avait un petit de le supprimer, en tout cas de
ne plus en faire un périphérique. Donc là, il y avait en l'occurrence ce qu'ils appelaient le vélodrome, c'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir des cyclistes. Il y a eu un énorme embouteillage, ça a beaucoup plu.
Il y avait des cyclistes, mais on pouvait pas y rentrer. J'ai testé en trottinette, qui était interdite. Les vélos étaient autorisés. Évidemment, il y avait des bouchons. bouchons partout.
Alors, il y avait des bouchons. Voilà. Ça, c'est un autre débat qu'on peut peut-être aborder après, mais c'est vrai que c'est paradoxal de faire une, c'est toujours le paradoxe de faire une nuit blanche sur le mouvement tout en paradoxalement bloquant tout Paris. C'est un peu ce qui s'est passé hier et ce qui se passe à quasiment toutes les éditions, mais particulièrement hier. Il y avait aussi un parcours de running. Vous savez que le running est très à la mode. La France et les Parisiens aiment le marathon. Donc là, il y avait un parcours de running avec des espaces artistiques qu'on peut visiter. Et il y avait, comme toujours, ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire 5 centres, on va dire, de programmation par la ville, dans le centre, dans l'ouest, dans le nord, etc. C'est intéressant de regarder ce qui se passait auparavant, les premières éditions de la Nuit Blanche à Paris. C'était pas du tout ça. C'était 4 ou 5 grandes interventions dans l'espace public avec des grands artistes, des Anish Kapoor, des hélicoptères qui survolent, des ponts emmaillotés, le pont des Affres en 2016, là, qui était le pont des Arts, où on avait des éclairages très particuliers. Donc, on va dire que les premières Nuits Blanches, il y a 18 ans, effectivement, 2002, je crois, on était sur des gestes artistiques très forts qui transformaient le regard sur la ville. On se rappelle que la première édition a été un succès, en même temps victime de son succès parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas voir grand chose. Là, on est un peu tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire que entre la programmation de la ville, la programmation off des grandes institutions culturelles qui dépendent ou pas de la ville, la programmation des lieux privés qui est gratuite en début de soirée puis qui devient payante, c'était le cas à la Rotonde à Jaurès, où vous aviez un début de soirée électro gratuit, puis à minuit, ça devenait payant. Il y a un problème de lecture, quand même, sur cette Nuit Blanche, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a une telle offre d'offres que ça devient compliqué de se repérer. Il y a eu quand même l'entrée d'un nouvel acteur, qui est un acteur éminent de la ville, la Philharmonie de Paris. On sait qu'Anne Hidalgo s'est suffisamment plaint d'avoir payé la note très salée de cet endroit, où là, pour le coup, il y avait une proposition très intéressante, un marathon musical qui a duré toute la nuit, avec un savoir-faire très important. Il y a vraiment, cette année, comme les 5-6 dernières années, à boire et à manger, et c'est très compliqué de comprendre quels sont les temps forts de cette Nuit Blanche. Il n'empêche que ça reste, on va dire, et c'est affreux, une marque, d'ailleurs la ville a vendu à d'autres villes, hein, en France, en Europe, en Chine. Et ça reste, on dirait, un point de repère encore plus fort peut-être pour les gens qui ne vivent pas à Paris, qui sont venus à la fois pour voir l'œuvre de James Koons, dont on va parler juste après, et aussi pour voir cette Nuit Blanche. Donc il y a toujours une offre, il y a toujours un public qui est assez partisan, mais c'est vrai que la lecture de l'événement en lui-même, de la programmation, devient de plus en plus compliquée. Alors ça reste quand même un assez franc succès. Vous étiez à la Gaîté Lyrique, vous pouviez pas rentrer. Moi j'ai fait la queue à la Philharmonie pendant 2 heures.
Si je pouvais rentrer, mais la queue est très longue.
Voilà.
De l'électro-expérimental.
Voilà. Non, mais force est de constater que d'une part, le public est toujours friand. Est-ce qu'il y comprend grand chose? Je suis pas sûre. Il y a toujours des modérateurs qui essayent de faire en sorte. Ça reste quand même un beau moment. Ça reste un moyen de voir la ville sous d'autres aspects. Moi, ça m'intéresse effectivement d'essayer de voir comment la Nuit Blanche post-Anne Hidalgo arrivera ou pas à se réinventer. Mais ça, ce sera l'année prochaine.
Avec des choses intéressantes, notamment, je citais le troisième paradis de l'artiste Michelangelo Pistolito, qui est arrivé en retard parce qu'il était lui-même pris dans les bouchons, comme Anne Hidalgo elle-même, qui n'arrivait pas à avancer avec sa voiture. Et puis, il y avait un spectacle, donc, je l'ai dit, d'électronique expérimentale à Gaîté Lyrique, ou encore spectacle sur les sons, assez intéressant, à l'église protestante unie de la rue des Archives. Voilà pour ce survol, si on peut dire.
Très gros, léger survol, parce qu'il y avait effectivement plus de 3000 artistes programmés, encore une fois.
Un carnaval sur la rue de Rivoli.
Oui, il y a eu une très belle parade. On était plutôt sur une nuit blanche carnaval, donc printanière, que sur l'automne. Il y a eu un défilé de chars. Il y a eu effectivement les éléments repris du spectacle de parade. Donc il y a eu vraiment, comme toujours, une offre très importante sur le thème du mouvement, peut-être trop importante, qui fait qu'en plus, on a toujours cette frustration de ne pas avoir été au bon endroit.
Et puis Didier Fusilier, qui était donc le curateur de cette Nuit Blanche, multiplie aussi ses initiatives autour des microfolies qu'il avait contribué à inventer au Parc de la Villette et qu'il a notamment, qu'il souhaite développer depuis les annonces qui ont été faites avant l'été par le gouvernement un peu partout en France. Certaines ont été créées sur ça, les microfolies.
Les microfolies, c'est ce concept, alors si on est honnête, que le ministre de la Culture, déjà sous Françoise Nyssen, puis ça a été repris par Franck Riester, a décidé finalement de définir comme priorité du quinquennat, hein, comme démocratisation de la culture. Avec le pass culture. Donc on n'en avait pas entendu parler pendant la campagne, mais finalement, il décide de s'en saisir. Donc en 2018, enfin à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, on avait eu l'objectif de 200 folies. Et là, début juin, le gouvernement avait dit qu'il voulait 1000 microfolies d'ici 2022. Donc il y en a qui, la première a été installée, c'était fin 2017 à Sevran-Bedotte. Et l'idée, c'est d'en ouvrir le maximum possible dans des endroits dits éloignés de la culture. Donc c'est la fameuse, c'est ce fameux terme de tiers-lieu, le lieu qui n'est à la fois ni un lieu d'institution, ni un lieu totalement public, ni un lieu privé, un lieu ouvert.
Voilà. Avec des reproductions d'œuvres.
Avec des reproductions d'œuvres, c'est ça l'idée.
Suscite le débat.
En fait, de dire, on va avoir des œuvres et puis on va avoir des reproductions d'œuvres. Donc vous pourrez voir un petit Van Gogh à côté de chez vous, mais c'est surtout un Picasso. Donc l'idée étant d'aller voir les gens, mais pas avec les vraies œuvres. Donc ça reste un vrai débat. Est-ce que l'expérience esthétique, c'est du confort près de chez soi, et surtout avec la vraie question de l'opportunité de cette démarche, alors même que, et on l'a vu à la présentation du budget du ministère de la Culture, qui a augmenté sur pas mal de crédits, mais sur ce qu'on appelle l'EAC, c'est-à-dire l'éducation à la culture, les crédits ont nettement diminué cette année. Donc voilà, paradoxe comme toujours chez la politique culturelle d'Emmanuel Macron.
On recevra d'ailleurs dans cette émission Soft Power Didier Fusillé dans quelques semaines pour en parler avec lui. Autre sujet d'actualité cette semaine, c'était vendredi matin l'inauguration du bouquet de tulipes de Jeff Koons tout près du musée du Petit Palais.
Ah oui, mais vous y étiez aussi, Frédéric Martel ?
J'étais pas vendredi matin, mais je suis passé samedi.
Vous êtes passé, vous allez nous raconter ce que vous en avez vu. Alors, petit rappel sur ce bouquet de tulipes, je pense qu'il est important de rappeler ce long feuilleton. Donc, bouquet de tulipes, c'est l'artiste américain Jeff Koons, qu'on ne présente quasiment plus, qui, au lendemain des attentats de 2015, avait annoncé qu'il comptait offrir à la ville de Paris cette œuvre, un bouquet de tulipes, qu'il dit donc inspiré à la fois du bouquet de l'amitié et de la femme au vase de Picasso, tout en faisant des espèces de références aux fleurs de Monet, de Manet, de Fragonard. Donc en s'inscrivant, malgré toujours ces gestes artistiques très pop et très industriels, dans une longue lignée de peintres français. Alors l'œuvre, on l'a vu, pour vous en parler, c'est une œuvre monumentale. Moi, j'ai été assez surprise de sa taille. J'avais complètement sous-estimé ça. 13 mètres de haut, 60 tonnes d'acier avec un socle. Le coût de l'œuvre, 3,5 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bouquet de tulipes? Au moment où cette annonce a lieu, Jeff Koons annonce aussi que cette œuvre sera un cadeau financé par des mécènes pendant très longtemps. On n'a pas eu le nom de ces mécènes, mais on sait par exemple que Xavier Niel a contribué, puis des mécènes américains, et que c'était à la fois pour rendre victime aux hommages des attentats du Bataclan, mais aussi pour célébrer l'amitié franco-américaine. Donc, deux buts un peu complexes à croiser, et dit-il, alors c'était ça, le moment...
Hommage aux victimes. Oui.
Hommage aux victimes, mais... pour être installé entre le palais de Tokyo, qui est donc sur le bord de la Seine et dans la lignée de la perspective où on a la tour Eiffel, et le Grand Palais. Là, branle-bas de combat chez les spécialistes de l'art, qui signent une tribune à l'époque, des galeristes qui globalement s'étonnent d'une part de cet objet et d'autre part de la manière dont ce cadeau finalement s'impose, y compris Bruno Julliard. Bruno Julliard est alors dans l'équipe d'Anne Hidalgo, c'est le premier adjoint en charge de la culture, et lui refuse que cette œuvre soit installée. Il y a eu tout un espèce de débat politique, et c'est Jean-Jacques Ayagon que nous recevions hier, qui finalement se fait l'ambassadeur et se fait le défenseur de cette œuvre, et c'est Christophe Girard, qui remplace Bruno Julliard à la culture à la mairie de Paris, qui trouve un endroit pour cette sculpture. Cet endroit, c'est un endroit qui effectivement n'est pas très très utilisé par les touristes. C'est donc entre la place de la Concorde et le Petit Palais, ce qu'on appelle le cours de la Reine. C'est un jardin municipal où il se passe effectivement pas grand chose, puisqu'il est coincé entre deux endroits du triangle d'or où il y a beaucoup de passages, qui est pas très évident à trouver. On ne le voit pas directement de la Tour Eiffel, on ne le voit pas des Champs-Élysées. Voilà. Donc, il a été installé là. Il aurait pu être installé à la Villette, mais Jeff Koons a refusé qu'il soit installé à la Villette, en grande partie tout simplement parce qu'il considérait bien qu'il n'y avait pas assez de touristes à la Villette et que les touristes américains ne verraient pas son œuvre. Encore aujourd'hui, il y a énormément de contestations sur l'existence même de cette œuvre. Le philosophe Yves Michaud dénonce une esthétique compliquée en disant qu'il s'agit d'un bouquet de tulipes, puisque ces tulipes ressemblent selon lui à des anus. Mais c'est vrai que la question politique, tout simplement, de savoir si l'espace public parisien peut ou doit être occupé par une œuvre financée par du mécénat privé, avec un artiste que finalement ni l'État ni les Parisiens n'ont choisi, hennie, et ça, ça a été probablement la réaction la plus violente, les associations de victimes qui n'ont jamais été contactées par l'artiste et qui le regrettaient vendredi dernier en disant qu'il n'avait même pas été convié à la cérémonie d'ouverture et qu'ils auraient volontiers joui de l'argent récolté pour la mise sur pied de cette sculpture pour leur association qui, elle, manque d'argent tous les ans depuis 2015. Voilà. Donc, au-delà des qualités esthétiques ou pas de cette œuvre, que je vous invite à aller voir, effectivement, il y a énormément de monde encore aujourd'hui, ouais, trois jours
après. C'est frappant, ouais.
Avec des gens qui adorent détester et des gens qui adorent adorer, notamment une foule de touristes américains qui se réjouit finalement vraiment de l'existence de cette œuvre. La question politique, je pense, reste entière et crée un précédent. Je discutais avec un passant français qui disait, mais en même temps, avec le 1% artistique, on a vu fleurir sur toutes les places de France des œuvres, pas forcément d'artistes français, à l'esthétique qu'à l'époque on jugeait parfois déplorable. Et c'était nous qui les payons et ça ne nous dérangeait pas tant que ça. Voilà. Bon, voilà. Moi, faites-vous votre propre.
Ça fleurit et c'est un bouquet de fleurs, donc tout va bien.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
À suivre dans Soft Power, émission spéciale ce soir sur la politique culturelle américaine, 3 ans après l'élection de Donald Trump.
Official art in this country, and I pray that we never will. We have no ministry of culture in this country, and I hope we never will.
À l'instant, un court extrait d'un discours de Jimmy Carter, président des États-Unis à la fin des années 70, qui prie pour qu'il n'y ait jamais de politique culturelle américaine aux États-Unis. Bonsoir Joanna Vorankovic et Carole Rosenstein. Vous êtes toutes les deux professeures d'université, l'une à dans l'Indiana aux États-Unis, l'autre en Virginie. Le mot politique culturelle, d'une certaine manière, c'est un gros mot aux États-Unis. Joanna Vorankovic.
I don't think it's a slur, but I don't think it's commonly used.
Non, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise communément.
In the United States, of course.
Aux États-Unis, politique culturelle, c'est pas une expression qu'on utilise communément.
Especially at the federal level, this is true.
Au niveau fédéral.
On l'utilise plus au niveau local, vous pensez?
Yes, in the cities, people speak of cultural policy.
En ville, oui, dans les grandes villes américaines, on parle de politique culturelle, oui.
And especially the effect of the arts and culture on tourism and economic development.
L'impact qu'ont l'art et la culture sur le tourisme et d'autres éléments de l'économie américaine.
Donald Trump et la culture, il y a une politique culturelle, Joanna Vorankovic, de Donald Trump, comment pourrait-on en parler?
I still don't think there's a cultural policy at the federal level.
Non, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de politique culturelle au niveau fédéral, particulièrement sur l'administration Trump.
For the arts, which is our federal
le National Endowment for the Arts, qui est l'organe de financement des arts aux États-Unis, a changé depuis que Trump est le locataire de la Maison Blanche. Cela dit, je ne pense pas que Donald Trump ait changé quoi que ce soit à propos de la politique culturelle américaine et la façon dont elle est perçue dans notre pays.
En quoi ça a changé Donald Trump? En quoi il a changé cette politique culturelle gérée notamment par le National Endowment for the Arts, l'agence culturelle fédérale américaine, qui est une sorte de petit ministère de la culture américaine?
I think one of the things that's important to remember about Donald Trump is he's a media celebrity.
Donald Trump, il faut se souvenir que c'est une célébrité des médias avant tout. Cet homme-là comprend très bien le pouvoir que l'on peut avoir lorsqu'on est en contact avec les gens par le truchement de la culture ou des médias plutôt. Cela dit, je ne pense pas que le mot art soit une priorité ou que le concept même soit une priorité pour Trump. Il a peut-être rendu la politique culturelle plus intéressante aux États-Unis parce que il a tout de même tenté de retirer le budget de Endowment for the Arts. Mais
il a voulu couper tout simplement le budget du NEA, c'est ça? Il a voulu tout arrêter.
Oui, il était question qu'il ne finance plus du tout le Endowment for the Arts au niveau fédéral, mais c'est très difficile à faire dans la pratique, parce que le Congrès doit approuver cela, et puis c'est tout un processus parlementaire.
Cette proposition
de la Maison Blanche n'a pas fonctionné. Donc, le Endowment for the Arts aura son budget. Ce budget, il faut le savoir, se décline au niveau régional. Pratiquement la moitié du budget national est décliné presque immédiatement à chacun des États des États-Unis.
En direct par téléphone depuis Washington, Grégory Phillips, le correspondant de Radio France permanent aux États-Unis. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Frédéric, bonsoir
c'est
à tous.
Encore l'après-midi pour vous, j'imagine.
Exactement, début d'après-midi.
La politique culturelle de Donald Trump, alors comment est-ce qu'on pourrait la définir? Est-ce qu'elle existe et à quoi ressemble-t-elle si vous l'avez vue?
Écoutez, juste pour revenir sur ce que disaient vos invités, vous savez, le candidat Trump avait promis effectivement qu'il couperait les fonds de ce NEA. Il ne l'a pas fait parce que le Congrès s'y opposait, mais c'est presque ça le premier marqueur de l'absence de politique culturelle de Trump, c'est de couper les fonds fédéraux pour cette agence indépendante. Le budget du NEA, c'est, je crois, à peu près 150 millions de dollars par an, donc c'est rien à l'échelle évidemment des États-Unis, mais Trump voulait couper ça. Alors il a nommé une nouvelle patronne de cet organisme qui s'appelle Marianne Carter, nommée par Trump pour 4 ans. C'est pas une grande spécialiste de l'art, mais c'est une ex-conseillère de Rick Scott, l'ancien gouverneur de Floride devenu sénateur. Elle connaît bien l'institution, mais objectivement, honnêtement, ce n'est pas une spécialiste du monde de l'art. Et puis, notez que dans l'Amérique trumpiste d'aujourd'hui, ce NEA, ce National Endowment for the Arts, a été l'objet, il y a quelques jours à peine, d'une polémique, parce que l'institution avait financé une exposition itinérante qui mettait en scène le révolutionnaire Che Guevara. Et évidemment, dans les milieux conservateurs, ça a été très mal perçu.
Alors, si on remonte à l'investiture de Donald Trump, les artistes étaient peu nombreux à accepter d'y participer. Et surtout si on compare à Barack Obama qui était arrivé, qui était devenu président américain avec à côté de lui Aretha Franklin, Bruce Springsteen ou encore Beyoncé, ouais, par exemple.
Oui, alors évidemment, rien de comparable pour le 45e président des États-Unis. Obama était l'ami des artistes et il en jouait beaucoup hein, pendant sa campagne et puis pendant les 8 années à la Maison Blanche. Trump, c'est rien de tout ça. C'est-à-dire que même pour l'investiture, il avait eu du mal à faire venir des artistes. Et je crois me souvenir que la seule artiste un peu connue ici aux États-Unis qui avait accepté de chanter pour Donald Trump était une finaliste de l'émission L'Amérique a du talent. C'est vous dire le niveau, on était quand même très loin de Beyoncé. Donc il y a très peu de liens entre Trump et le monde culturel. Deux exemples, par exemple, depuis qu'il est à la Maison Blanche, il n'a jamais remis la National Medal of Art que Obama remettait régulièrement, que les présidents américains remettent à des artistes. Il ne participe pas non plus aux cérémonies organisées chaque année par le Kennedy Center pour saluer la carrière de tel ou tel chanteur ou tel comédien. Trump est totalement étranger à ça, et donc il y a finalement très peu de liens entre lui et le monde culturel américain.
Quelle est sa culture? Quelle est la culture de Donald Trump?
Juste pour revenir sur ce que disait l'une de vos invitées, si ce n'est pas un homme de culture, en tout cas c'est un homme de télévision, d'une culture extrêmement populaire. Faut se souvenir qu'il a quand même présenté The Apprentice sur ABC pendant des années, donc il vient de là, Donald Trump. Il vient du show business, du monde de la télévision et même de la télé-réalité. Et d'ailleurs ça se voit aujourd'hui en tant que président, parce que quand je vous disais qu'il reçoit peu d'artistes à la Maison Blanche, en revanche il reçoit des personnes issues de la télé-réalité. Je pense à Kim Kardashian qui a quasiment porte ouverte à la Maison Blanche parce que elle porte notamment la parole des détenus américains, et elle essaye de peser dans la réforme de la justice américaine. Mais vous voyez les seules personnalités du monde culturel avec de gros guillemets reçues par Trump à la Maison Blanche, c'est Kim Kardashian, c'est le rappeur Kanye West, alors soutien de poids parce que c'est quand même un énorme artiste très médiatique ici aux États-Unis et un des très rares à soutenir ouvertement Donald Trump, et puis aussi quelques artistes de country. Je pense par exemple au chanteur Lee Greenwood, alors qui est pas du tout connu en France, qui ici est un petit peu connu, qui chante de la country assez patriotique, d'assez bas niveau, on va dire. Mais Lee Greenwood, par exemple, est un des artistes du monde de la country qui soutient ouvertement Trump, qui vient chanter dans ses meetings. Il avait d'ailleurs chanté à l'investiture, je crois, de Reagan et des deux présidents Bush.
Grégory Philips, en direct de Washington, correspondant permanent de Radio France. Un mot, Grégory, sur l'audiovisuel public, en tout cas ce qu'on pourrait appeler l'audiovisuel plutôt à but non lucratif aux États-Unis. Dans ce registre, Donald Trump a voulu, là encore, couper les budgets.
Oui, c'est exactement la même philosophie. Hein. C'est, vous savez, PBS, NPR reçoivent des fonds fédéraux. Eh bien, Trump voulait tout simplement couper tout ça. Ce qui oblige, alors ce qui n'a pas été fait, mais ce qui oblige ces médias publics à évidemment aller chercher de l'argent ailleurs auprès des donateurs. Et quand vous écoutez NPR, quasiment à tous les mois, vous avez une campagne de levée de fonds pour que les auditeurs viennent en aide à ces radios. C'est ça la politique culturelle de Trump. C'est couper les fonds fédéraux. À l'agence fédérale dont on parlait au début, puis par exemple aux médias publics.
Pour terminer, Grégory Philips, la politique culturelle, c'est désormais partout à travers le monde, c'est aussi de la régulation, une régulation très technique, notamment vis-à-vis de Google, Apple ou encore Amazon. Dans ce registre, Donald Trump, il est plus actif peut-être ?
Oui, alors là, il est plus concerné, mais c'est pas forcément pour l'aspect culturel des choses. C'est simplement parce que les Facebook, enfin tous les GAFA pour Trump sont sous la menace de régulation, et ça, Trump les défend. Pourquoi ? Parce que là, c'est, on parle plus de culture, mais de politique. Trump est un anti-régulateur dans tous les domaines, d'ailleurs, que ce soit l'environnement ou là les GAFA, les géants du numérique. Donc eux ont un soutien relatif de Trump quand par exemple Facebook se fait attaquer par le Congrès. La Maison Blanche dit il ne faut pas réguler ces géants, mais vous voyez qu'on est très loin de la politique culturelle telle qu'on peut l'entendre en France, évidemment.
Grégory Philips, en direct de Washington, correspondant permanent de Radio France. Ce soir dans Soft Power, on parle de la politique culturelle américaine 3 ans après la victoire de Donald Trump, avec Joanna Vorankovic et Carole Rosenstein. Tous deux sont professeurs d'université dans l'Indiana et en Virginie pour la seconde. En début d'émission, on évoquait au fond le budget du National Endowment for the Arts, l'agence culturelle américaine qui est le petit ministère de la culture américain. Joanna Vorankovic, vous avez notamment été l'une des responsables du National Endowment for the Arts. Pour défendre les arts aux États-Unis, il faut toujours, comment dire, des arguments, défendre pour que ce soit en faveur du tourisme, en faveur de l'emploi, en faveur des communautés, des villes.
I think the approach in the past has been to try to legitimize the existence.
La démarche a consisté à rendre légitime l'existence même du NEA. Donc, la présidence et les dirigeants ont tenu un discours en ce sens. Et des recherches sont menées pour montrer l'impact positif que peut avoir l'art dans les différentes communautés des États-Unis. Mais on peut se poser la question de l'efficacité même de ces activités. Est-ce que l'agence est très efficace? Est-ce que ça a vraiment eu un retentissement important sur l'art et le fait de mettre en avant le rôle de l'art dans la société?
Carole Rosenstein.
Oui,
il m'apparaît qu'aux États-Unis, on pense que les beaux-arts s'adressent à une élite et pas à l'ensemble de la nation. Par conséquent, le NEA s'assure que l'argent va financer les communautés au niveau local, les endroits et les communautés qui sont mal servis par l'art. Et ça, c'est un moyen important de montrer l'importance de l'art à l'ensemble du peuple américain.
Zoé Sfez, il y a aussi, aux côtés de Donald Trump, quelqu'un qui a un rapport tout à fait différent à l'art, c'est son épouse.
C'est pas son épouse, c'est sa fille en fait. C'est
sa fille,
pardon. Ivanka Trump, qui est donc la fille de sa première épouse, Ivana. Alors, on va revenir effectivement, vous allez le faire, Frédéric, sur le système, enfin, en tout cas, sur les autres moyens de financer l'art aux États-Unis, qui reposent beaucoup plus sur le mécénat, sur les fondations. Ivanka Trump, en fait, il faut se rappeler que c'est donc la fille de Donald Trump, et que à avant que son père ne devienne une personnalité politique, avant même qu'il finalement prenne la tête des Républicains, elle a grandi avec les autres socialites et filles de politiciens à New York. C'était une amie de la fille des Clinton. Elle a toujours été collectionneuse d'art dès qu'elle a eu 21 ans et une fortune à elle. C'était une fille branchée, presque proche de la, pas de la gauche, mais en tout cas de cette élite éclairée. Elle collectionnait pas mal d'œuvres d'art. Elle suit sur Instagram toute une foule de jeunes artistes branchés. Elle a fait plusieurs actions dans des galeries, etc. Résultat des courses, quand son père s'est déclaré candidat, déjà elle a été troublée parce qu'elle, c'était quelqu'un qui avait en plus soutenu des démocrates aux élections locales quelques années auparavant, je ne me trompe pas. Donc elle a complètement changé de bord pour s'aligner sur la politique de son père, et elle est devenue l'un de ses plus importants soutiens. Et au moment de l'élection de Donald Trump est né un compte sur Instagram qui s'appelait Dear Ivanka, donc chère Ivanka, qui partait de tous les artistes qu'elle collectionnait, qui lui disait « Chère Ivanka, je refuse que maintenant que tu accroches mes œuvres d'art à ton mur, je refuse que tu me collectionnes ». Donc ils se sont servis de cette espèce de point d'accès qui était Ivanka Trump dans cette équipe très étrange qui était celle de Donald Trump, pour essayer d'obtenir une forme de débat avec elle. Et ce compte est un peu mort de sa belle mort quand on a compris qu'Ivanka Trump n'allait pas en tout cas bouleverser la politique de son père, en l'occurrence en la matière. Finalement, il est né à nouveau parce que Ivanka Trump s'était inscrit en faux contre la politique migratoire de son père. Et là, pour le coup, elle s'est un peu opposée à lui. Et voilà, les artistes essayent de se servir de ce point d'accès qu'est cette jeune femme pour influer à la fois sur la vision potentiellement culturelle de son père.
Southern tree. Bear a strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Ce soir, dans Soft Power, sur France Culture, on parle de la politique culturelle américaine, 3 ans après la victoire de Donald Trump. Et pour bien pouvoir comparer les choses et réfléchir au temps long, je vous propose maintenant de remonter dans le temps, de Roosevelt à Obama, pour suivre cette politique culturelle et ses grandes dates. Pour commencer, nous partons à Washington le 17 mars 1941. Le président Franklin Roosevelt inaugure la National Gallery, le principal musée de Washington et le seul musée véritablement public aux États-Unis. Quelques années plus tôt, il y a eu la Grande Dépression et le New Deal. Roosevelt a créé la WPA, ou Work Progress Administration, qui va financer massivement les artistes et contribuer notamment au développement de l'expressionnisme abstrait et du jazz. Quelques mois après son discours de mars 1941, les Américains vont entrer en guerre. Et plus tard, après le conflit, la capitale de l'art, qui était Paris, va basculer et devenir New York. Le discours de Roosevelt, dont on va entendre un extrait, est essentiel. L'un des plus importants de toute l'histoire de la politique culturelle américaine. Franklin Roosevelt, le 17 mars 1941.
Mr. Chief Justice, ladies and gentlemen, it is with a very real
Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense satisfaction que j'inaugure pour le peuple américain et au nom du peuple américain cette National Gallery et les collections qu'elle abrite. Il y eut un temps où le peuple de ce pays n'aurait jamais cru que ce patrimoine artistique leur appartient ou qu'ils ont la responsabilité de le conserver. Si l'on remonte à quelques générations, les Américains entendaient de la part de leurs professeurs, de leurs écrivains, que les arts étaient étrangers à l'Amérique et à eux-mêmes que les arts se réduisaient à des objets importés d'un autre continent et importés d'une autre époque. Quelque chose qui ne pouvait que se regarder dans des pièces très surveillées le dimanche. Mais récemment, ces dernières années, oui, de notre vivant, les Américains se sont aperçus qu'ils avaient un rôle à jouer dans leurs villes, leurs villages, leurs écoles, dans les bureaux de poste, dans les arrière-boutiques. Ils ont découvert des tableaux peints par leurs fils, leurs voisins, des gens qu'ils connaissaient, à côté de qui ils vivaient, à qui ils parlaient. Ces dernières années, ils ont eu l'occasion de découvrir des salles aux murs couvertes de peintures réalisées par des concitoyens américains. Certaines de ces œuvres étaient excellentes, d'autres peut-être moins bonnes, mais toutes témoignaient de l'humanité, du désir de la vie qui anime l'humanité. Ils reconnaissaient les sujets peints, ils pouvaient les toucher, les reconnaître, les aimer. Le peuple de ce pays sait désormais, malgré ce qu'ils aient pu croire précédemment, qu'ils peuvent accepter de découvrir l'œuvre de peintres allemands ou des Botticelli et des Raphaël, Van Dyck et Rembrandt, les peintres français. Et j'accepte toute la richesse de ces œuvres au nom de notre nation démocratique en affirmant leur foi dans l'esprit humain qui partout actuellement est menacé. Et qui a été piétiné. Inaugurer l'ensemble de ces œuvres aujourd'hui, c'est affirmer la détermination du peuple américain, l'esprit humain qui a su produire toutes ces œuvres d'art et toutes ces sciences ne sauraient être complètement détruites.
Après Roosevelt, sous Truman et Eisenhower, la politique culturelle se précise aux États-Unis. La dimension guerre froide prend de plus en plus d'importance. Elle va se concentrer d'ailleurs sur le département d'État sous une forme de politique étrangère et de ce qu'on n'appelle pas encore le soft power. Ce mouvement se généralise sous John Kennedy qui va défendre la liberté de l'artiste avec beaucoup de passion et sa nature intrinsèquement critique face bien sûr à l'art russe et face aux soviétiques. Comme ici, dans ce magnifique discours du 26 octobre 1963, un mois avant son assassinat. Le discours a lieu à l'université Amherst à l'occasion d'un hommage au poète américain Robert Frost qui deviendra ce discours une sorte de testament artistique du jeune président assassiné, John Kennedy.
Robert Frost said it. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by.
Comme l'a dit Robert Frost, il y avait deux chemins dans le bois. J'ai choisi le moins emprunté. Et c'est cela qui a fait toute la différence. Les hommes qui créent le pouvoir apportent une grande contribution à la grandeur de la nation, mais ceux qui remettent le pouvoir en question apportent une contribution tout aussi indispensable, surtout lorsque cette remise en question est désintéressée, car c'est eux qui déterminent si nous utilisons le pouvoir ou si c'est le pouvoir qui nous utilise. Lorsque le pouvoir amène l'homme à l'arrogance, la poésie lui rappelle ses limites. Lorsque le pouvoir rétrécit le domaine des préoccupations de l'homme, la poésie lui rappelle la richesse et la diversité de son existence. Lorsque le pouvoir corrompt, la poésie purifie. Car l'art établit la vérité humaine fondamentale, qui nous sert de critère suprême de jugement. L'artiste, aussi fidèle à sa vision personnelle de la réalité qu'il puisse être, devient, en dernier recours, le témoin de la pensée individuelle et de la sensibilité contre une société abusive ou inquisitrice ou contre les États trop empressés. Le grand artiste est donc un être solitaire. En poursuivant sa vision de la réalité, il doit souvent naviguer contre les courants de son temps. Ce n'est pas un rôle populaire. Et si souvent nos plus grands artistes ont été les plus critiques envers notre société, c'est en vertu de leur sensibilité et leur souci de justice, toutes choses qui motivent les vrais artistes. Je vois peu de choses de plus d'importance pour le futur de notre pays et de notre civilisation que la pleine reconnaissance de la place de l'artiste. Pour que l'art nourrisse les racines de notre culture, la société doit laisser l'artiste libre de suivre pleinement sa vision où que celle-ci le mène. On ne doit jamais oublier que l'art n'est pas une forme de propagande, il est une forme de vérité. Dans une société libre, l'art n'est pas une arme et il ne doit pas appartenir à la sphère de la polémique ou de l'idéologie. Les artistes ne sont en rien les ingénieurs de l'esprit. Cela peut être différent ailleurs. Mais dans une société démocratique, le plus grand devoir d'un écrivain, d'un compositeur, d'un artiste est de rester vrai à lui-même. En servant sa vision de la vérité, un artiste sert sa nation. Et une nation qui dédaigne cette fonction de l'art annonce le destin de l'ouvrier saisonnier dont parle Robert Frost, celui qui ne peut pas regarder en arrière avec fierté, ni regarder devant lui avec espoir. J'imagine un grand avenir pour l'Amérique. Un avenir par lequel notre pays aura un pouvoir militaire équivalent à notre retenue morale, sa richesse équivalente à sa sagesse, ses pouvoirs avec ses objectifs. Je crois en une Amérique qui n'aura pas peur de la grâce et de la beauté, qui protégera la beauté de notre environnement naturel, qui préservera les grandes vieilles maisons, les places, les parcs de notre passé. Je crois en une Amérique qui récompensera les réussites dans les arts, comme nous récompensons celles dans les affaires ou la politique. Je crois en une Amérique qui augmentera régulièrement le niveau de l'accomplissement artistique et qui étendra constamment les opportunités culturelles à tous ses citoyens. Et je crois en une Amérique qui forcera le respect à travers le monde, pas simplement par sa force, mais aussi par sa civilisation. Et je crois en un monde qui sera sûr, non seulement pour sa démocratie et sa diversité, mais aussi pour la différence de ses individus.
JFK,
JFK,
beat the Russians,
save the day,
stop the Jew haters and their bomb,
stop
their nuclear pogrom.
Dedicated to undo American anti-Semites too. Threat to the colored, threat to the Jew. Ask not what your country can do.
Phrase célèbre de Kennedy, ne demandez pas votre pays ce qu'il peut pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez pour votre pays. C'est un extrait de Caroline of Change, la comédie musicale de Tony Kushner, qui parle notamment qui est autour des années 60, justement. Joanna Vrankovic, Carol Rosenstein, vous êtes toutes les deux professeurs d'université aux États-Unis. Peut-être un commentaire sur Kennedy, patron des arts. Quasiment le fondateur de l'agence culturelle américaine qui va être créée par son successeur après son assassinat.
Well, to me, it's interesting to hear how founded it is in Cold War ideas.
C'est intéressant de voir à quel point ce discours est ancré dans cette idéologie qu'avaient les États-Unis au moment de la guerre froide.
uphold individualism.
Les États-Unis en faveur de l'individualisme, de la liberté, de l'innovation.
New ways of thinking,
une nouvelle façon de réfléchir et d'exprimer l'humanité. Et ces idées, en fait, viennent en réaction à l'Union soviétique et à la situation de la guerre froide et de la propagande soviétique.
Joanna Vronkovic.
I also think when I hear Kennedy speak, especially about the arts,
Kennedy,
it seems to me to be very personal.
À l'entendre parler des arts, il semble donner son point de vue personnel. Il faut se souvenir que Kennedy faisait partie de l'élite culturelle des États-Unis de l'époque. Sa compréhension de l'art, sa perception de la culture, comme jouant un rôle important dans la société, comme étant une partie intégrante de la vie, c'était tout à fait en phase avec la façon dont il vivait.
Assassiné, Kennedy n'aura pas eu le temps de bâtir la politique artistique qu'il avait initialement envisagée avec son principal conseiller, Arthur Schlesinger. Et de fait, c'est Johnson, son successeur, qui crée l'Agence culturelle américaine, ce véritable petit ministère des arts aux États-Unis dont on a parlé, le National Endowment for the Arts. La signature de la loi officiellement a lieu à la Maison-Blanche le 29 septembre 1965. On écoute Lyndon Johnson ce jour-là.
Remarks of the President upon signing the Arts and Humanities Bill from the Rose Garden of the White House, September 29, 1965.
Mr. Vice President,
Monsieur le Vice-président, Sénateur Mansfield, Messieurs les parlementaires,
in the long history of man,
au cours de la longue histoire de l'humanité, d'innombrables empires ont vu le jour pour ensuite disparaître. Ceux qui n'ont pas su créer des œuvres d'art durables sont relégués aujourd'hui aux notes de bas de page dans les manuels d'histoire. L'art constitue le patrimoine le plus précieux, car c'est dans l'art que nous nous révélons à nous-mêmes et aux autres cette vision qui nous guide en tant que nation. Et lorsqu'il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Ce projet de loi qui vise à créer la Fondation nationale des arts et des lettres nous donne le pouvoir de transformer certains de ces rêves et idées en réalité. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va travailler avec les autorités des États et les autorités locales et avec un grand nombre d'organismes privés qui travaillent dans le domaine artistique. Et nous allons créer un théâtre national pour que les classiques, aussi bien anciens et modernes, puissent être montrés à divers publics partout aux États-Unis. Nous allons apporter un soutien financier à une troupe d'opéra et à une troupe de danse nationale. Nous allons créer un institut cinématographique national qui rassemblera des artistes de premier rang de l'industrie cinématographique, ainsi que des enseignants remarquables et des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent que leur carrière professionnelle soit dans le monde cinématographique. Nous allons commander auprès de compositeurs américains de nouvelles œuvres musicales et nous allons apporter un soutien financier à nos orchestres symphoniques. Nous allons faire venir davantage d'artistes dans nos écoles en créant des bourses et en leur permettant d'être internes dans nos universités et dans nos écoles. Mais cela ne constitue qu'une petite partie des programmes que nous sommes prêts à lancer. Cela aura un retentissement sans précédent sur les arts et les lettres de notre grande nation. Mais ces actions et d'autres actions qui suivront bientôt ne peuvent pas seules nous permettre d'atteindre nos objectifs. Produire des résultats véritables et durables nécessite que nos États, nos municipalités, nos écoles et nos grandes fondations privées travaillent de concert avec nous. C'est dans les quartiers de toutes les communités que se trouvent les racines de l'art. Dans d'innombrables petites villes américaines, il y a des milliers de talents méconnus ou même inconnus. Et ce projet de loi vise à soutenir de manière active cette grande force nationale que nous avons, pour que le vent de l'art souffle de manière bénéfique sur notre pays. Les arts et les lettres appartiennent au peuple, car après tout, c'est bien le peuple qui crée l'art.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Ce soir, Soft Power, émission spéciale sur la politique culturelle américaine. 3 ans après la victoire de Donald Trump, à l'instant c'était le président Johnson qui considère que, après tout, l'art appartient au peuple américain, l'art américain. Nous sommes avec Joanna Vorontkovich, professeure à l'université d'Indiana aux États-Unis, et Carol Rosenstein, professeure à l'université George Mason en Virginie, auteur de Understanding Cultural Policy, publié chez Routledge en 2018. France Culture, il est précisément 19h. On continue cette émission dans sa dernière partie et on va suivre cette historique avant de conclure tout à l'heure sur l'état actuel de la politique culturelle américaine. Lyndon Johnson, c'est la création, Joanna Vorontkovich, du National Endowment for the Arts.
Yes, LBJ did, but I think the
oui,
idea for the NEA
on peut dire ça bien sûr, mais l'idée de la création est antérieure à la présidence de Johnson.
Really, Johnson was picking up many
en fait,
of the ideas
Johnson a repris les idées du WPA de Roosevelt pour que la politique culturelle réponde aux priorités nationales. Oui, et la politique de Johnson était alignée par rapport à ses autres politiques visant des programmes de socialisation, et tout cela encore en réaction à l'Union soviétique. Johnson ne s'intéressait guère à séduire l'intelligentsia européenne, contrairement à Kennedy.
Oui, parce qu'il venait d'un autre type de profil géographique aussi.
Yeah, different background, basically.
Very much so.
Oui, oui.
Yeah. Il vient du Texas, quand même.
He was from Texas.
He was, indeed. Yeah. It's interesting, actually, because Johnson's
en fait, c'est intéressant parce que
it's very different from Donald Trump's populism.
Le populisme de Johnson est différent
Johnson
de celui de Trump. Mais Johnson était confronté au même problème qui consiste à
Trump
devoir séduire les élites.
1%, that super elite, at the same time that he has to broadcast his populist message.
Mais en même temps, il fait passer
really
ses
makes for an interesting cultural politics.
Et ça donne une idée de la politique culturelle très intéressante avec un tel président.
Il y a une grande différence aussi, c'est que c'est un démocrate par rapport à Trump.
Oui, c'est évident.
Maybe that's where the similarities end.
Bon, les similitudes s'arrêtent là.
Alors, c'est donc un républicain, Richard Nixon, qui va succéder à Lyndon Johnson, puisque Johnson, du fait des 60s, de 1968 et surtout de la guerre du Vietnam, ne va même pas pouvoir se représenter à sa propre succession. Nixon, c'est autre chose, une politique qui initialement apparaît comme très favorable aux artistes. Duke Ellington joue pour lui à la Maison Blanche, on l'écoutait justement tout à l'heure en début d'émission. Et d'ailleurs, le budget du NEA, l'Agence culturelle américaine, va considérablement augmenter durant le premier mandat de Nixon. On l'écoute ici, le jour de son investiture, où il évoque la mission de l'Amérique. Richard Nixon, le 20 janvier 1969.
Standing in this same place,
se tenant à cette même place, il y a un tiers de siècle, Franklin Delano Roosevelt s'adressait à la nation ravagée par la dépression, étreinte par la peur. Il a pu dire, en observant les malheurs de la nation, « Dieu merci, il ne s'agit que de soucis matériels ». La crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est à l'opposé. Nous sommes riches matériellement, mais pauvres spirituellement. Nous arrivons à atterrir sur la Lune, mais nous perdons dans des discours tapageurs sur la Terre. Nous sommes prisonniers de la guerre alors que nous aspirons à la paix. Nous voulons l'unité, nous nous déchirons. Nous voyons des tâches qui doivent être réalisées, qui attendent les mains pour les effectuer. À une crise de l'esprit, il faut une réponse de l'esprit. Pour trouver cette réponse, il nous suffit de regarder en nous-mêmes.
Voilà, Richard Nixon, dans ce discours du 20 janvier 1969. Il y a un paradoxe, Nixon, puisque au moins en apparence et au moins au début, il est très favorable aux arts et surtout il va financer, permettre que la culture soit beaucoup plus financée qu'auparavant et d'ailleurs que par la suite. Comment on explique ça quand on sait évidemment que Nixon sera impeaché lors du Watergate?
Historically, if you look at our Republican presidents,
Kennedy's budget has actually been quite higher
for most, if not all, of our Republican administrations, which is
les budgets ont été augmentés sous présidence républicaine. Donc, c'est un paradoxe, et vu de l'extérieur, c'est difficile à comprendre.
So this is one of the reasons why I mentioned the connection between the fine arts and elites.
C'est pour ça que j'ai évoqué le rapport entre les beaux-arts et l'élite aux États-Unis. On ne peut pas parler de beaux-arts ou de financement des beaux-arts sans comprendre qui sont les gens qui financent les beaux-arts aux États-Unis. Mais bien entendu, lors de la présidence de Nixon et juste après, Nancy Hanks était la présidente du NEA. Elle avait travaillé avec la fondation des frères Rockefeller et c'était une femme politique absolument remarquable et qui a su faire financer les arts par le Congrès et par la Maison-Blanche.
C'était même une des maîtresses hein, de Nelson Rockefeller, comme l'attestent les lettres que nous avons pu découvrir dans les archives, notamment de Rockefeller lui-même. Alors la politique culturelle américaine est donc bien singulière, on le voit sous Nixon, et elle apparaît comme au fond un contre-modèle par rapport à la France, du fait de cette philanthropie de la des communautés aidées, et même des universités, on y reviendra. Et c'est ce que d'ailleurs résume et affirme, je dirais presque merveilleusement, emblématiquement, Jimmy Carter, le président qui succède à Nixon, en des termes très explicites. Alors, il ne lui succède pas directement puisqu'il y a Ford pendant quelques mois, mais c'est Jimmy Carter qui est élu par la suite. Et il va dire très explicitement, lors de l'inauguration de l'aile Est de la National Gallery à Washington le 6 juin 1978, il va dire pourquoi il ne faut pas de ministère de la culture aux États-Unis. Tendez bien l'oreille, le son est original, le son original n'est pas très bon, mais le discours vaut le détour.
In an open society, like our own,
dans une société ouverte comme la nôtre, la relation entre le gouvernement et les arts doit nécessairement être subtile. Nous n'avons pas de ministère de la culture dans ce pays et j'espère que nous n'en aurons pas. Nous n'avons pas d'art officiel dans ce pays et je prie pour que nous n'en ayons jamais. Aussi démocratique que soit un gouvernement, aussi proche de la volonté du peuple soit-il, ce ne peut jamais être le rôle du gouvernement que de définir précisément ce qui est bon, ou juste, ou beau. À la place, le gouvernement doit se limiter à nourrir le sol sur lequel l'art et la culture peuvent se développer. C'est pourquoi, dans ses limites, le gouvernement peut faire beaucoup, et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'année dernière, nous avons augmenté notre soutien au NEA de manière significative. Et une part importante de cette augmentation a porté sur des subventions publiques, elles-mêmes doublées par des dons privés. Aux États-Unis, les arts sont aidés par de nombreuses voies aussi différentes que variées. Parce que nous sommes une société ouverte, ce qui permet aux arts et aux idées de se développer naturellement.
Jimmy Carter, le 6 juin 1978, lors de l'inauguration de l'aile Est, donc de la National Gallery à Washington. Alors juste après, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, le nouveau président, le prochain président des États-Unis, est un acteur. Il a même joué dans un film, comment dire, un peu ridicule, un film de série B, Bedtime for Bonzo, où il joue, on s'en souvient peut-être, le rôle d'un éleveur de chimpanzés.
Peter, there's something very odd going on in this house.
You're right.
But do you know, when I told that to Hans, he said that I was developing a persecution complex. Well, I wouldn't stay in this house another minute.
Peter,
Look, darling, don't you worry too much about me. As soon as I get in that car, all of my troubles will be behind me. I've got to relax. When people relax, the mental processes are much more relaxed. Goodbye, darling.
Voilà, Ronald Reagan dans Bedtime for Bonzo, à propos de chimpanzés. Ronald Reagan, qui fut aussi l'ancien président du syndicat des acteurs à Hollywood, fonction encore plus importante en termes de lobbying culturel, devient président des États-Unis et il va défendre, lui aussi, contre toute attente, les arts. Il va les protéger d'abord pour ne pas décevoir les grands philanthropes qui sont aussi ses meilleurs alliés politiques et parfois même d'ailleurs ceux qui le financent. C'est en gros ce qu'il explique lors d'un dîner de collecte de fonds à la Maison Blanche le 21 mars 1981. Ronald Reagan.
Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici ce soir et je sais que nous avons tous hâte de voir le spectacle au théâtre plus tard. Un des privilèges que nous apprécions en vivant à Washington, c'est que nous participons à l'histoire de cette ville somptueuse. J'utilise le qualificatif « somptueuse », mais s'agissant des dépenses que certains donateurs assument pour assister à des dîners organisés à des fins caritatives, je devrais dire « somptuaire ». Dans bien des soirées comme celle-ci, les comédiens jouent sans être rémunérés. Si l'on ne sait ni chanter ni danser, on se retrouve à présenter quelqu'un qui sait chanter ou danser. Quand on acquiert suffisamment d'expérience, on se voit invité à parler entre la poire et le fromage. Et là encore, avec un peu d'entraînement, on apprend à faire de beaux discours et à renoncer au show business pour embrasser une activité professionnelle complètement différente. Ce soir, dans ce salon, chacun mérite des remerciements. Non seulement ces formidables artistes qui vont jouer pour nous plus tard dans la soirée, mais vous tous. En effet, vous êtes des donateurs et des mécènes généreux, non seulement envers des œuvres caritatives, mais aussi envers des activités artistiques, et vous participez à la préservation de trésors historiques, et vous faites perdurer une tradition américaine. Parce que dans ce pays, nous avons maintenu, grâce à des dons privés, plus d'orchestres, d'opéras, de ballets, de théâtres et de bibliothèques que tous les autres pays du monde rassemblés. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous remercier au nom de tous les Américains. Nancy et moi, nous sommes très honorés de pouvoir vous accueillir ici, chez vous. Merci beaucoup à tous.
Ronald Reagan, donc, discours à la Maison Blanche le 21 mars 1981. Nous sommes avec Joanna Vorankovic et Carol Rosenstein, professeurs d'université aux États-Unis, toutes deux passionnées, intéressées, qui suivent la politique culturelle américaine. Ronald Reagan, c'est quel moment, Joanna Vorankovic, dans cette politique culturelle?
Reagan was a very charismatic individual.
Reagan, on le sait, était particulièrement charismatique. Ancien comédien, il sait parler, il sait mettre en lumière les arts et la culture, mais il croit à la philanthropie, évidemment. Il a participé à la création du conseil présidentiel en vue de remplacer le financement public par le financement privé.
Et au début, d'ailleurs, son entourage veut couper les budgets du NEA, il veut en fait sanctionner les arts, qui ne semblent pas essentiels. Et c'est un rapport qui est commandé par Reagan à ses conseillers, notamment à Frank Hotzol, qui va devenir le patron du NEA sous Reagan. Ils font une étude autour des équipes de James Baker, qui est alors secrétaire général de la Maison Blanche et qui sera le futur ministre du budget et des affaires étrangères de Reagan, puis de Georges. George Bush père. Et le résultat de cette enquête, patronnée notamment par Charles Austin, comment il s'appelle l'acteur célèbre,
Charlton Heston.
Voilà, il me manquait un ton dans le Charlton. Il conclut en disant oui, il faut maintenir ce budget, il faut maintenir le NEA.
Yes. It's interesting because that committee, though,
oui, parce que ce comité présidentiel en faveur des arts et des humanités existe encore aujourd'hui et il a été particulièrement utile, notamment dans l'administration Clinton. Donc le président a pu lui-même faire passer un certain nombre de lois sans avoir l'appui du Congrès. Donc c'est une initiative qui permet à la politique culturelle au niveau fédéral de perdurer, quelles que soient les cohabitations. Donc, la Maison Blanche joue un rôle très important dans la politique culturelle aux États-Unis.
Alors, c'est sous Bush père et surtout sous Bill Clinton que les choses commencent à déraper sérieusement. Les guerres culturelles américaines se déclenchent. À l'origine, c'est une série d'expositions ou de pièces de théâtre indirectement financées par le National Endowment for the Arts. Les photos érotiques et sadomasochistes de Robert Mapplethorpe, l'œuvre Peace Christ d'André Serrano, l'exposition contre le sida de Nan Goldin ou encore la pièce de Tony Kushner, Angels in America. Certains députés et sénateurs républicains demandent tout simplement la suppression du NEA et le changement de son directeur, lequel sera finalement démissionné. Bill Clinton, dans cette affaire, sera complètement démuni au moment de cette bataille et se souciera assez peu des arts et du National Endowment for the Arts. Il préférera rappeler, jusqu'à plus soif, qu'il aime les arts parce que le nom de sa fille Chelsea vient d'une chanson de l'artiste folk Judy Collins, Chelsea Morning. Ou encore raconter tout simplement sa rencontre avec Hillary Clinton grâce à l'artiste expressionniste abstrait Mark Rothko. Bill Clinton.
Deux jours plus tard, je descendais les marches qui menaient au rez-de-chaussée de la faculté de droit et j'ai revu Hillary. Elle portait une longue jupe à fleurs. J'avais bien l'intention de lui parler. Elle m'a expliqué qu'elle allait s'inscrire pour le semestre suivant. Je proposais de l'accompagner. On a fait la queue et on a bavardé. Je trouvais que je me débrouillais pas trop mal, jusqu'au moment où nous sommes arrivés devant la personne qui prenait les inscriptions. Cette personne m'a regardé et m'a dit « Bill, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es déjà inscrit depuis ce matin ?» J'ai rougi. Hillary a rigolé. J'étais complètement grillé. J'ai demandé à Hillary si elle voulait venir se promener avec moi pour aller voir l'exposition de Mark Rothko. J'étais tellement ému que j'avais oublié que le personnel de l'université était en grève et que le musée était fermé. Par chance, il y avait un gardien qui était là. Je lui ai proposé de nettoyer le jardin, de ramasser tous les branchages, à condition qu'il nous laisse entrer. Il nous a regardés, il nous a étudiés et il nous a laissé entrer. Nous avions l'exposition rien que pour nous. C'était merveilleux. Et depuis, j'apprécie éminemment Mark Rothko.
Voilà, la rencontre entre Bill et Hillary Clinton à l'exposition Mark Rothko. Alors, si Bill Clinton a été essentiellement silencieux ou absent sur ces sujets durant ces deux mandats, je vous propose d'entendre trois témoignages au sujet des Culture Wars. Le président du National Endowment for the Art sous George W. Bush, Dana Gioia. Et pour commencer, le dramaturge Tony Kushner, qui fut critiqué et dont les budgets ont été, le budget de sa pièce a été coupé à cause de cette guerre culturelle. Tony Kushner, qui est l'auteur dramaturge, peut-être le plus célèbre dramaturge américain vivant, auteur de Angels in America et de nombreuses autres pièces, que j'ai rencontré au Public Theater de New York, où il a créé cette pièce Angels in America.
Doors opening, step back to allow customers to exit. When boarding, please move to the center of the car. Step back, doors closing.
Tony Kushner, vous avez été critiqué par les Républicains, notamment à cause d'Angels in America, qui est une pièce qui, en 1996, suscite à Charlotte, en Caroline du Nord, une interdiction et la suppression de la subvention du théâtre qui l'a montée, et finalement la destruction de l'agence qui avait contribué à la financer. Et donc, vous devenez une nouvelle figure des Culture Wars.
I feel very happy that it was, I think that it certainly En réalité, je suis très satisfait de la façon dont tout cela s'est passé. Je n'écris pas dans le but de faire les gros titres. Je n'ai aucune intention de provoquer la controverse pour le plaisir. Je me considère comme un écrivain politique, partisan. Je suis un écrivain de gauche. Donc j'espère que mes écrits suscite la réaction des gens qui me lisent ou qui voient mes spectacles. Dans une démocratie, les gens essayent d'exprimer leur désaccord ou leur colère de manière politique. La controverse déclenchée à Charlotte était un cauchemar au début. Et au bout du compte, les responsables politiques locaux n'ont pas été réélus. Aucun n'a été réélu de tous ceux qui ont essayé d'interdire la pièce. Dans les Culture Wars aux États-Unis, ce qu'il y a de regrettable, c'est que la communauté artistique américaine n'a pas su reconnaître le privilège dont elle jouissait en étant l'objet de ce football politique. Nous nous considérions comme les victimes de la droite, mais nous n'avons pas réagi de façon politique intelligente. Nous n'avons pas su voir que les Culture Wars n'étaient qu'une petite partie du mouvement des forces de la droite visant à démanteler l'autorité fédérale des États-Unis. Nous, nous étions au centre de tout cela. Les républicains, sous Reagan, nous ont utilisés, nous étions instrumentalisés. Tout ce mouvement a été lancé à notre détriment. Les artistes étaient instrumentalisés dans toute cette lutte visant à décrédibiliser le gouvernement de Reagan. Et c'est ce que nous avons dit, mais ce n'était pas la bonne démarche. Nous aurions dû dire, nous sommes l'instrument de ce mouvement de rejet du rôle positif du gouvernement dans la société. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait, on a échoué. Donc on n'a pas eu d'argent, il n'y a pas eu de soutien pour les arts, et tout cela a démarré dans les années 80. Il y a eu cette petite lutte sur le financement de la part du NEA, mais nous, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Nous aurions dû parler de manière intelligible, intelligente, avec passion de ce sujet, mais on n'arrivait pas à bien comprendre toutes les implications de cette lutte politique qui était énorme.
L'Amérique, voilà ce que Louis aime. Et alors ? Peut-être que oui, t'as aucune idée de ce que j'aime. Aucune idée.
Je hais l'Amérique, Louis. Je déteste ce pays. Ce n'est qu'un ramassis de grandes idées, de mensonges, de mecs qui crèvent et de gens comme toi. Le comique blanc qui a écrit l'hymne national savait ce qu'il faisait en mettant le mot libre sur une note si haute que personne ne peut la chanter. C'était pas par hasard. Le mot liberté a l'air d'une fausse note dans ce pays. Passe me voir à l'hôpital, on ira à chambre 113 et je te la montrerai, l'Amérique. Démente, agonisante et mesquine. Je vis en Amérique, Louis. Je n'ai pas à l'aimer. Tu l'aimes, toi. Tout le monde a un truc à aimer.
Tony Kushner, vous pensez que vous avez perdu les culture wars, les guerres culturelles?
I think we lost that round.
On a perdu la bataille. Et on a perdu beaucoup de plumes dans la bataille. On a perdu à l'échelle du gouvernement. La télévision américaine et les grandes entreprises américaines ont joué un rôle très important.
À l'instant, donc, Tony Kushner, sur les Culture Wars, le dramaturge américain, auteur notamment d'Angels in America. Joanna Vronkovitch, Carole Rosenstein, on voit que ces batailles culturelles, ces guerres culturelles ont affaibli le dispositif fédéral américain de politique culturelle. On en est où aujourd'hui, peut-être pour terminer cette émission? Quelles sont les priorités, quelles sont les difficultés, quelles sont aussi les forces de ce système?
Après ces guerres culturelles, le NEA ne pouvait plus financer les artistes de manière individuelle, ne pouvait plus soutenir les institutions culturelles de façon illimitée, et le NEA a dû financer directement les États des États-Unis. Eh bien, on s'est dit qu'il y aurait un grand changement dans les priorités de l'agence. À l'heure actuelle, les priorités du NEA porte sur le financement de communautés et de régions, et non plus des artistes individuels. Et il s'agit d'une réaction non seulement en guerre culturelle, mais il y a aussi les propositions de Barack Obama pour le financement de lieux de culture. Au cours des 5 ou 10 dernières années, le NEA s'est inscrit en tant que partenaire avec d'autres agences fédérales, par exemple le ministère du Logement et de l'Aménagement du Territoire, pour financer les arts et la culture par d'autres moyens que le financement direct des artistes. Il s'agit donc d'un rôle très important que le NEA assume désormais. C'est le chef de file de système de financement avec des philanthropes et des mécènes. Il s'agit d'initiatives nationales que le NEA aurait pu financer seul dans le passé. Et par ailleurs, le fait de financer au niveau régional et le fait de travailler en partenariat, c'est que l'accent que l'on met sur les arts et la culture n'est pas aussi important qu'avant les guerres culturelles. Aujourd'hui, on finance les arts et la culture dans des domaines pas forcément liés à l'art. Par exemple, l'amélioration du bien-être, l'amélioration de la santé, l'amélioration du développement économique, des choses comme ça. Donc, le soutien à la véritable créativité, à l'innovation artistique, et bien le financement vient surtout de mécènes. Et du coup, ça crée quelques manquements dans ce que peuvent faire et se permettre les artistes.
Quand on regarde cette histoire, au fond, on a eu une politique culturelle très tournée, très élitiste, très tournée vers la philanthropie et les grands donateurs, la culture européenne, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, d'une part, et d'autre part, une politique culturelle beaucoup plus, dont les priorités étaient beaucoup plus l'éducation, les communautés, la question noire et la diversité culturelle. Au fond, une opposition assez clair entre les républicains et les démocrates.
It's difficult. I think that there is a sense that
à vrai dire, les choses ne sont pas si simples. Le soutien envers les arts au niveau fédéral est relativement faible. Néanmoins, il y a du soutien de la part des républicains et des démocrates. En fait, c'est plus instrumentalisé par les responsables politiques que cela ne fait l'objet de clivage entre eux. Et tout à fait. Et si vous regardez des publications conservatrices, on voit que le NEA fait l'objet d'un soutien même de la part des très conservateurs.
Mais avec ces deux axes, et notamment un axe très fort aujourd'hui d'aller vers les quartiers, d'aller vers l'éducation et d'aller vers les communautés. Je vous propose de terminer cette émission qu'on a commencée avec Donald Trump par un extrait de discours de Barack Obama, président des artistes, sinon des arts. Il s'exprime ici sur l'importance des arts aux États-Unis. Je laisse le son en anglais pour qu'on écoute la voix de l'ancien président qui dit en substance « La Maison-Blanche a accueilli le premier tournoi de jeunes talents dans les arts, preuve de l'importance qu'il accordait à l'éducation artistique. » Je cite Obama « La place des arts est centrale. Ils sont importants pour ce que nous sommes et pour le succès de nos enfants. Ce n'est pas une arrière-pensée là, ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que c'est juste cool, c'est une nécessité pour ces jeunes que de promouvoir les arts. » J'espère que cet événement aidera à renvoyer le message aux écoles, aux parents, aux gouverneurs et à tous les dirigeants de notre pays. Et ce message, c'est il faut soutenir les arts, c'est une priorité. Barack Obama à la Maison Blanche, le 20 mai 2014.
The arts are central to who we are as a people, and they are central to the success of our kids. This is not an afterthought. This is not something you do because it's kind of nice to do. It is necessary for these young people to succeed that we promote the arts. And I hope that events like this help send a message to school districts and parents and governors and leaders all across this country. You've got to support the arts. It's a priority.
Merci à vous deux, Joanna Vorankovitch, professeure à l'Université d'Indiana, Carole Rosenstein, professeure à l'Université George Mason en Virginie, auteur de Understanding Cultural Policy chez Routledge en 2018. Merci à Xavier Combe pour ses longues traductions ce soir en direct. Merci à vous, Zoé Sfez.
De rien, Frédéric.
Les archives.
Merci à vous. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'était le sujet de votre thèse, la politique culturelle aux États-Unis? C'est vaguement pour ça, d'ailleurs, que cette émission est aussi riche.
Les archives que l'on a écoutées ce soir proviennent de France Culture, émission Les Guerres culturelles américaines, diffusée le 23 août 2006, et de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Pour aller plus loin, les références, articles et livres dont on a parlé durant cette émission sur le site de France Culture, Soft Power. La semaine prochaine, on parle de développement, l'Agence française de développement, occasion pour nous de faire le point sur l'état de la coopération de la France en Afrique, au Maghreb, mais aussi en Asie. Je recevrai Rémi Rioux, le directeur de l'AFD, qui a un nouveau volet à sa coopération, celui des industries culturelles. Dans un instant, Carbone 14, j'ai encore une seconde pour vous dire que l'économiste Thomas Piketty sera demain l'invité des matins de France Culture, à ne pas rater donc demain matin. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.